Alors Jean-Paul Fontanon, là nous sommes donc à Jarre-sur-Mer, c'est la journée des écrivains, très sympa, beaucoup d'auteurs. Puis là je suis à vos côtés, je suis votre voisin de palier hein, avec Arthur et Étoile Bleue. Je suis pas embêtant comme garçon, non ?
Ah ben pas du tout, très agréable et très professionnel.
Alors, qu'est-ce qu'il est gentil, dites donc, qu'est-ce qu'il est sympa. Alors ce qui m'intéresse quand même, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, j'ai rencontré un passionné. Hein, qui s'auto-édite, qui fait des choses exceptionnelles, qui collectionne des photos, des appareils photos sur la Grande Guerre. Ça, c'est une passion depuis, on va en parler. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a interpellé, et vous allez voir, là, je m'adresse un peu à François Michalon, notre éditeur, auteur, co-auteur du Burnout, le vrai du faux du Burnout. Et là, quand j'ai parlé avec vous, Jean-Paul, vous m'avez dit, mais moi, c'est peut-être pas le Burnout, mais c'est pratiquement la même chose. Une grosse, grosse déprime. Et vous m'avez dit, sans que je vous pose la question, et je m'en suis drôlement bien sorti, grâce à quoi ? Alors, Jean-Paul, je crois que là, il m'a dit, non, on y va à livre ouvert, à cœur ouvert, je ne cache rien, je veux tout dire, parce que ça peut aider beaucoup de gens. Et justement, je fais le raccord avec le burn-out hein, aux éditions Fortuna. Écoutez bien ce message, comment on peut s'en sortir, et vous allez voir d'une manière tout à fait extraordinaire. Alors, Jean-Paul, bonjour.
Bonjour.
Je suis votre voisin de palier, je suis très curieux, vous l'avez vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville ?
Eh bien, il s'est passé un énorme accident, c'est-à-dire un divorce particulièrement douloureux pour moi, après 29 ans de vie sans problème. Tout d'un coup, du jour au lendemain, ben, on a sa femme qui quitte la maison, qui quitte son travail, qui abandonne d'une certaine façon aussi ses enfants, tout le monde, le chien, le chat, etc. Et on se retrouve tout seul et avec le monde qui s'écroule. Donc je suis resté à cette époque-là, je dirais 3 mois sans dormir, réellement sans dormir, et avec une idée en tête, c'était de me supprimer. Quoi. Ça a été ça pendant 3 mois.
Alors je dis grosse dépression, burn-out, parce que ça peut aussi arriver quand on a le burn-out, hein, d'arriver vraiment au fond du trou, entre guillemets. Alors là, c'était vraiment, il n'y avait plus rien, c'était le no man's land, on n'a plus envie de rien, c'est le trou noir, c'est le suicide, enfin...
Ben c'est, là, ouais. Voilà, c'est complètement la décrépitude, qu'une idée en tête, ben c'est de se supprimer, de se cacher. La seule chose qui me faisait du bien, c'était en pleine nuit, alors moi j'habite à la campagne, en Auvergne, hein, je sortais le soir sur les chemins sans aucune lumière, sans rien, et je marchais même avec, quand il y avait de la lune un petit peu, bon, on savait où on mettait les pieds, mais ça m'est arrivé de partir sur les chemins en pleine nuit, sans aucun éclairage et pratiquement avec une nuit noire. Et par contre, ça me faisait du bien. Le fait de marcher faisait du bien. Et il m'est arrivé une chose assez extraordinaire, c'est que pratiquement le jour où j'avais décidé de me supprimer, j'ai eu la visite de mon deuxième fils, qui sentait bien quand même que là, j'étais au fond du trou, parce qu'il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit « Papa, tu me jures de ne pas faire de bêtises quand je suis pas là ». Et bien entendu, je lui ai dit oui. Et à partir de là, il fallait trouver une solution pour essayer de s'accrocher à cette parole-là. Parce que c'est facile d'une certaine façon, quand on est au fond du trou, de se supprimer. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Mais là, je pensais à ce que j'avais dit à mon fils. Et je ne pouvais pas ne pas résister et tenter de trouver une solution pour ne pas le décevoir, parce que j'engageais pas que ma vie, j'engageais aussi la sienne. Faire confiance à quelqu'un, donner une parole et pas la suivre, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me travaillait. Et donc, comme une évidence, je me suis dit, je pars faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
C'est venu comme ça, là.
C'est venu comme ça. J'ai fait le détour par Décathlon, chercher le plus gros sac qui existait. J'ai rempli ce sac avec un peu n'importe quoi, donc je suis arrivé à un poids qui faisait pratiquement 30 kg de matériel. La petite tente, parce que comme je n'avais envie de ne rien préparer sur le chemin, surtout pas d'avoir des points de chute ou un plan de route en me disant « le soir je m'arrêterai à tel endroit », je voulais être en autonomie pour que je sois le plus indépendant et l'esprit complètement libre. Et donc j'avais cette tente qui me permettait de m'abriter au moment où je m'arrêterais le soir. En fait, le but c'était de marcher et d'arrêter par épuisement à l'endroit où je pourrais plus faire un pied, après l'autre. Et donc c'était ça le but, d'aller au bout de soi-même tous les jours. Donc je suis parti du jour au lendemain, donc du Puy-en-Velay, et passionné par la Grande Guerre, j'ai quand même pris un objet avec moi un peu particulier et qui est le symbole de tout pèlerin qui s'en va à Compostelle, c'est-à-dire un bourdon, le bâton du pèlerin. Mais je n'ai pas pris n'importe lequel, puisque j'ai pris un bourdon d'un poilu de la guerre de 14. Il est marqué 1917, il y avait le nom du soldat dessus, le régiment de Clermont-Ferrand, le 92e à l'époque. Et donc j'avais décidé de partir avec cette canne, je pense pour me faire plaisir, mais cette canne a eu un rôle très très important parce qu'elle a permis le dialogue. C'est-à-dire quand je suis parti, j'étais tellement fracassé que du Puy-en-Velay pratiquement jusqu'à Comte que je n'ai parlé à personne. Mais après, la canne m'a permis, puisqu'il y a quand même des pèlerins qui sont fiers de leur bourdon, de leur bâton, d'entrer en contact avec eux, parce qu'ils étaient étonnés de voir quelqu'un avec un bâton qui était recouvert de cuivre et de laiton, qui était fabriqué à partir de douilles de but de l'époque, et puis qui gardait cette date symbolique de la guerre. Et ça m'a permis justement d'entrer en dialogue avec d'autres marcheurs et de reprendre, je dirais, un contact avec...
Le goût à la vie.
Goût à la vie d'une certaine façon, oui. Voilà.
Pour vous, cette route de plusieurs semaines du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, c'est une marche. Donc pour vous, le message à faire passer, c'est donc cette marche, cette volonté même de vous faire mal, parce que c'est quand même très très long ce chemin, c'est difficile, il y a plein d'embûches des fois, et ça vous a sorti de cette dépression, de tout ce que vous viviez en négatif, qui était plus supportable.
Mais c'est exactement ça, dans le sens que ça a été une souffrance physique, mais intense, jusqu'au bout, on va dire, puisque quand je suis arrivé au bout du chemin, je ne pouvais plus mettre de paire de chaussures. Je suis resté 4 mois à marcher, même pieds nus sur la moquette, en ayant le sentiment d'avoir des aiguilles qui me traversaient la voûte plantaire. Donc ça a été un chemin de souffrance qui a, d'une certaine façon, gommé ou effacé la souffrance morale. Et puis, il faut dire aussi, cette expérience du chemin de Compostelle, c'est l'occasion de faire des rencontres avec d'autres marcheurs, avec d'autres personnes qui ont aussi des drames qu'ont connus. Parce que bon, il y a quelques touristes sur le chemin, mais il y a beaucoup de pèlerins qui vont suite à un divorce, suite à une maladie, suite à un deuil. Ils ont perdu un enfant ou leur compagne, enfin, etc. Beaucoup de gens aussi qui, à la retraite, après avoir eu un métier qui leur a pris toute leur existence, se retrouvent du jour au lendemain à la retraite, donc inutile à la société, tombent dans une dépression aussi importante et se retrouvent aussi sur le chemin. Donc c'est un peu le fait de discuter avec tous ces horizons un peu différents, ces malheurs en souffrance et en partance vers Compostelle qui fait qu'on remonte la pente. Et il y a la souffrance physique, mais il y a aussi le bonheur de partager des rencontres, ensuite des repas, et puis se faire des amis, et puis commencer à sourire, commencer à rigoler même avec les amis, boire un bon petit coup, parce que...
Et ça fait partie du coaching, comme dit François Michelon,
se faire plaisir,
rire, s'amuser.
Voilà. Et on remonte la pente comme ça, au fur et à mesure du chemin, et c'est une renaissance. Voilà.
On écrit un livre qui s'appelle « Le bourdon du poilu » de Jean-Paul Fontanon, à titre d'auteur aussi, à compte d'auteur. C'est une autre passion, ça. On engrange plein de souvenirs, plein de photos.
Eh bien, là, le fait de publier ça, c'est à la fois, bon, bien sûr, de parler aussi de la guerre de 14, parce que je parle de mon expérience dramatique et de la rénovation que le chemin a pu faire et de remonter la pente, justement, après cette épreuve. Mais j'avais aussi envie de parler de ce que les objets... et notamment les objets de la Grande Guerre, par exemple, peuvent aussi contenir une part de souffrance. Et j'ai imaginé dans le livre qu'à chaque fois qu'on marche avec la canne dans les mains, en fait, elle nous donne une anecdote. Par exemple, on est sous l'orage, on a le sac à dos, alors on a mal aux pieds, on a mal partout, et en plus, on est trempé. Et quand on tient la canne, elle va nous évoquer un orage dans les tranchées où il s'était passé quelque chose de bien particulier dont elle a été le témoin. Donc j'avais envie de se faire ce parallèle et de me dire qu'en chaque objet, et notamment des objets de tranchées faits par les poilus qui ont mis un peu tout leur cœur et leur espoir de s'en sortir, eh bien, il y avait aussi le témoin. C'était comme un bâton de témoin qui permettait de croire en des jours meilleurs, et puis voilà quoi. Donc ça a été tout ça, cette expérience.
Ça me rappelle de Lamartine, cette très belle phrase. Objets inanimés, voilà. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Donc vous, c'est ça aussi, c'est cet objet qui vous a redonné cette...
C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, moi, toute ma vie, je me suis intéressé aux choses anciennes pour me raccrocher peut-être à des gens que j'avais connus. Donc j'ai été passionné de photos anciennes.
Collection d'appareils.
J'écoute régulièrement sur des vieux phonos des 78 tours en tournant la manivelle.
Extraordinaire.
Ça fait partie de choses parce que, bon, on a toute la technologie actuelle merveilleuse qui peut donner des jours meilleurs. Mais moi, j'aime bien me raccrocher sur ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, essayer de garder cette tradition. J'aime beaucoup ça.
C'est un lien
avec les ancêtres, on va dire.
Alors, question je vous pose, et comment ça va maintenant, Jean-Paul Fontanon ?
Eh bien, ça va tout à fait bien. Et je recommande à des gens qui ont comme ça des problèmes dans leur vie de prendre leur sac à dos, même de le surcharger. C'est pas grave, on vide son sac. Il y a des fois, il est trop lourd et on en laisse une partie sur le chemin. Mais voilà, c'est une thérapie sans médicaments, sans alcool. Bien que bon, on boive un petit coup sur le chemin,
mais ça fait partie du plaisir, ça.
Mais on arrive à remonter la pente comme ça, et c'est formidable. Par l'amitié, par les rencontres, par les paysages aussi qui sont magnifiques et donc qui restent dans la mémoire. Le rappel des souffrances aussi qui finalement finissent par devenir des bons moments. Il se passe plein de choses. Donc faire le chemin ou aller ailleurs. Hein. Il y en a qui vont à Rome ou qui vont mais marcher dans la nature, s'éloigner comme ça du monde, c'est une sacrée thérapie qui fait du bien.
Ah voilà, c'est le témoignage que je comptais faire en pensant au burn-out. Hein. Le vrai du faux avec François Michalon, le docteur de labo, la chrononutrition et l'urgentiste Ali Abdjei qui nous a dit il y a des gens qui arrivent chez moi aux urgences qui sont complètement en détresse et puis il faut leur donner des solutions. Bah, aujourd'hui, je crois que c'est un beau témoignage.
Voilà, c'en est une parce que après... Ben... On revient, on est remonté à bloc, on fait une nouvelle rencontre et la vie repart avec une compagne et on se rend compte que tout ce qu'on avait pleuré et tout ce qu'on avait mis de désespoir, ben finalement, la vie est belle hein, et repart sur d'autres choses. Voilà.
C'est pas mal comme conclusion, la vie est belle, on repart sur d'autres choses. En tout cas, Jean-Paul Fontanon, ben, c'est un coup de cœur, le coup de cœur de cette journée des écrivains à Jarre-sur-Mer. On a des voisins de palier comme ça, puis on discute et puis on voit la grande guerre, des passions, la passion, des photos, des archives, enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et puis surtout, on a parlé comment on peut se sortir d'un burn-out, d'une grande dépression en marchant, en se faisant plaisir, en rencontrant des amis, le lien familial, le lien social. Et puis aujourd'hui, comme vous le dites, la vie est belle. Alors, c'est le 1er mai, c'est merveilleux. Merci Jean-Paul.
Merci, au revoir.